Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
D'une semaine à l'autre, quand on revient avec l'émission peut contenir des infos, c'est dans le but de vous informer, mais de façon absolument extraordinaire, parce que des sujets, on ratisse très large. Sébastien Boucher qui est avec moi en studio. Salut Sébastien.
Salut, salut à vous tous qui nous écoutez, où que vous soyez au Canada.
On a encore une fois un sac rempli de sujets d'information qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. On aura l'occasion, entre autres choses, de parler des nappes phréatiques tantôt.
Ben oui, parce que je me demandais, moi, j'étais pas sûr exactement c'était quoi à certaines passes de ma vie. Puis pour faire la différence, est-ce qu'on boit vraiment de l'eau qui vient des nappes phréatiques et à quel point elles sont en danger? Puis qu'est-ce que c'est en fait? Une nappe phréatique, on regardera ça ensemble.
C'est vrai, on entend ça des fois, hein? Les nappes phréatiques sont attaquées par exemple par la pollution ou il y a des choses comme celle-là, puis on se pose la question, c'est quoi des nappes phréatiques, qu'est-ce que c'est, puis d'où ça vient, puis tout ça. Alors, on parlera de ça tantôt dans le deuxième bloc. J'aurai l'occasion de vous glisser deux, trois mots sur la suppression de vos informations personnelles dans un moteur de recherche très connu, Google en l'occurrence. Ça pourrait être plus facile de faire enlever maintenant des informations personnelles dans les résultats de recherche.
Aha.
Dans le troisième bloc, tu auras l'occasion de nous parler. Ça va être un bloc un peu consacré aux affaires spatiales, parce que tu vas parler de quoi? De fossiles, je pense?
Oui, des fossiles qui ont été retrouvés en Algérie, mais qui pourraient nous aider à dévoiler les secrets de la vie sur Mars.
Ah bon? Wow! OK, c'est intéressant ça. Première sonde spatiale privée qui s'est posée sur le sol lunaire, il y aura ça également. On va conclure avec ton quiz. Veux-tu voler le punch cette semaine?
Ou... Ben oui, je vais te dire le sujet. Ça va être sous le thème du printemps. Parce que là, on a eu tellement des belles températures à l'avance. Le printemps qui s'emmène, mais je le vois arriver plus vite que je pensais. Donc, je suis très content. Ça dépend où vous êtes au pays. Hein. Peut-être que vous avez eu un hiver un peu plus rude, mais dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'est tranquille. Mais on va y aller pour un quiz du printemps. Ça va être un gros quiz de 20 questions aujourd'hui, Simon.
Parfait. Alors, attachez vos trucs avec la broche, même si on va parler du printemps. Dans les prochaines minutes, toi, tu vas disserter sur un personnage dont on connaît le nom de famille, parce qu'il y a une compagnie d'automobile qui s'appelle comme ça, mais dont on connaît assez peu de choses sur le personnage en question, c'est-à-dire Nikola Tesla.
Exact. Puis, je veux en parler de Nikola Tesla aujourd'hui. Parce que moi, quand j'étais jeune, on nous apprenait vraiment à l'école. On avait vu c'était qui? Nikola Tesla. Puis, son nom était très usité. Mais là, depuis que Elon Musk a appelé sa compagnie Tesla, ça a complètement brouillé les cartes. On n'entend plus parler de Nikola Tesla. Tesla, on l'associe tout de suite à Elon Musk puis aux voitures électriques. Mais en fait, aujourd'hui, on va aller voir parce que Tesla, là, l'homme en question duquel vient le nom là, pour la compagnie de Musk, ben c'est vraiment quelqu'un de formidable. En fait, tout ce qu'il a inventé, c'est impressionnant. Il est à l'origine de plein d'inventions qui ont révolutionné l'utilisation pratique de l'électricité, entre autres. Puis c'est ça, son héritage est trop souvent gommé, on va dire, par le fait que là, maintenant, on parle de marque de voiture quand on dit Tesla. Alors, je voulais ramener le vrai nom et la vraie source à l'avant-plan aujourd'hui. Il a été un ingénieur de génie. Il est né de parents serbes orthodoxes à Smija en 1856, Nikola Tesla. À l'époque, ça, c'était l'Empire austro-hongrois, mais ça se retrouve aujourd'hui en Croatie, l'endroit où il est né. Il avait fait des études en mathématiques, en physique à l'Université technique en Autriche. Il a voyagé dans toute l'Europe, à Prague, à Budapest, puis à Strasbourg et à Paris, avant de se fixer aux États-Unis. À partir de 1884, Tesla, il s'est installé aux États-Unis. Il avait commencé son métier d'ingénieur chez Westinghouse. Tu connais Westinghouse?
Ben oui, Westinghouse, bien sûr.
C'est bien sûr. Puis on s'intéressait surtout à ce moment-là à l'utilisation du courant continu. Mais là, lui, Tesla, il a pressenti les possibilités offertes par le courant alternatif et puis il a conçu le moteur électrique à induction en recourant à un champ magnétique tournant. Il a étudié aussi les télécommunications par ondes électromagnétiques sans fil. C'est à lui qu'on doit ça, là, les remotes. Puis, il est à l'origine de plein de découvertes là, vraiment prodigieuses. Alors, c'est en son honneur, ben oui, qu'on a nommé l'unité de mesure des champs magnétiques, le Tesla, premièrement. Et bien sûr, Elon Musk a choisi son nom à cause de son grand talent, là, qu'il a appelé sa compagnie de voitures électriques Tesla. Puis, en dépit de cette reconnaissance-là, après sa mort, on va dire posthume, il a été tout au long de sa vie, il a connu tellement de difficultés, Tesla, pour faire comprendre aux gens l'intérêt de ses découvertes. Il est mort en 1943 à l'âge de 86 ans. Il était pauvre quand il est mort, dans un grand dénuement. Puis pourtant, ses travaux avaient conduit à plein de brevets qui ont été massivement utilisés partout dans le monde. Donc, pauvre Tesla, je trouve qu'on l'a laissé vraiment trop en arrière. Et d'abord, il a travaillé dans la téléphonie l'ingénierie électrique avant d'immigrer aux États-Unis en 1884. Puis là, il a travaillé avec Thomas Edison à partir de 84, puis avec George Westinghouse. Puis il a enregistré, lui, Westinghouse, il a enregistré beaucoup de ses brevets. Puis il est considéré, Tesla, comme un des plus grands scientifiques dans l'histoire des technologies. Il a déposé quelques 300 brevets au total, 125 inventions. Et beaucoup ont été crédités à Edison, à Thomas Edison, mais à tort. C'est beaucoup d'inventions qui venaient de Tesla. Des nouvelles méthodes pour réaliser la conversion de l'énergie. Puis il est reconnu aussi, Tesla, comme un des ingénieurs les plus créatifs de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Alors, pendant son vivant, il a été renommé pour ses inventions et pour son sens de la mise en scène. C'est vraiment lui, tu sais, quand on dit un savant fou, là.
Oui, oui.
On pense des fois à Einstein, ou surtout à cause du film Le jeune Einstein. Je sais pas si t'avais vu ça, c'était comique.
Non, du tout.
Ben, mais c'était vraiment, il faisait savant fou. Puis Tesla, c'est lui le vrai de vrai. C'est lui l'archétype du savant fou. Il était vraiment de même dans la vie. Un grand humaniste, et il se fixait comme objectif, lui, d'apporter gratuitement l'électricité dans les foyers et de la véhiculer sans fil. Il est demeuré relativement méconnu pendant plusieurs décennies, par contre, après sa mort, mais son œuvre a entraîné un regain d'intérêt dans les années, à partir des années 90. Puis, il est l'auteur du moteur électrique asynchrone, l'alternateur polyphasé, le montage triphasé en étoile. Bon, il y en a des mots qui me disent pas grand-chose là-dedans, mais on voit que c'est assez prestigieux. La commutatrice aussi, il a aidé Thomas Edison à faire en sorte que le courant continu fonctionne. Puis, il est le principal promoteur du transport de l'énergie électrique en courant alternatif. C'est en 1889 qu'il s'est intéressé à la haute fréquence et il a réalisé un générateur. Et il a exposé en 1891 sa lampe à haute fréquence, sa pastille de carbone. Puis, en 1896, il a fait des expériences de télécommande. Alors, vraiment, Tesla, là, en se basant sur l'excitateur de Hertz, il a mis au point la bobine Tesla. On l'a appelé comme ça. Premier émetteur accordé d'ondes amorties. Puis, il a défini les bases de la téléautomatique. Il a conçu qu'on puisse un jour commander des véhicules à des centaines de kilomètres sans qu'il y ait d'équipage. Alors, on voit pourquoi Elon Musk a appelé sa compagnie comme ça. Hein. Puis, il a utilisé pour ça, lui, la télégraphie sans fil. Il a créé deux navires robots télécommandés, d'ailleurs, dont un qui est submersible. Puis, ses brevets de 1895 contenaient des spécifications d'un bateau torpille sans équipage. Ah, c'est vraiment le premier qui a pensé tout ça. Puis, des expérimentations, des gigantesques résonateurs à haute fréquence à Colorado Springs pour construire une tour de télécommunication. Il a créé le premier robot télécommandé qu'il avait présenté au Madison Square Garden à New York. Puis, le radar aussi, lui, a travaillé là-dessus. En 1917, il avait proposé l'utilisation d'une onde entretenue pour repérer des objets. Puis, Nikola Tesla envisageait l'affichage des échos résultant sur un écran fluorescent. Ça, c'est une idée qui a été reprise par le radar. Donc, on doit le radar à Tesla.
C'est capoté quand même de voir tous les travaux sur lesquels il s'est penché et auxquels il a abouti, hein, dans bien des cas. Mm-hmm. On est en 2025, puis on regarde ça, puis... Hein, OK, c'était dans la fin des années 1800, début des années 1900, il y a plus d'un siècle de ça. Hey. Le gars était déjà, versait déjà dans ces technologies-là qui sont dans certains cas très éprouvées et très utilisées aujourd'hui. C'est assez spécial.
Oui, puis même les rayons X, Simon, Tesla, il étudiait déjà les rayons X depuis 1894, mais c'est pas lui qui l'a découverte en fait. Il parlait du phénomène, lui, comme une énergie radiante invisible. Il avait constaté ça dans des expériences qu'il avait faites. Puis, il est sûrement le premier homme à avoir capturé par accident une image de rayon X. Mais c'est pas à lui que vient la découverte, mais je t'explique. En décembre 1895, il essayait de photographier Mark Twain, qui était éclairé par un tube de Geissler. La seule chose apparente sur l'image, c'est la vis de blocage métallique de l'objectif sur l'appareil photo. Puis, quelques mois plus tard, après avoir appris la découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen, ben, Tesla a réalisé qu'il a manqué de proche. Il aurait pu faire la découverte puis l'annoncer découverte majeure, mais c'était un peu trop tard. Il s'est rendu compte que son esprit l'avait aiguillé, mais qu'il n'avait pas compris les indices qui lui avaient été proposés parce qu'il a passé à deux poils de découvrir les rayons X. Et puis, il a été consultant, dernière chose, là, pour les chutes du Niagara. Ici au Canada, en 1893, c'est Edward Dean Adams qui dirigeait la Niagara Falls Hydraulic Power Manufacturing Company. Puis, il a demandé l'avis de Tesla pour un système de transmission de l'électricité produite aux chutes du Niagara. Puis, pendant plusieurs années, il a reçu plein de propositions. Il a ouvert plusieurs concours pour savoir la meilleure façon d'utiliser l'énergie. Puis Adams a demandé à Tesla des informations sur tous les systèmes qui étaient en compétition et c'est lui qui a recommandé un système biphasé. Il lui a expliqué que Westinghouse proposait ce système-là pour qu'il travaillait. Puis c'est à lui qu'on doit ça aux chutes Niagara, le courant alternatif biphasé. C'est sur les conseils de Tesla que ça s'est fait. Mais vraiment, un grand homme. Puis je voulais qu'on se rappelle que Tesla, ce n'est pas seulement le nom d'Elon Musk pour sa marque de voiture. Ça vient c'est vraiment ça. De Nikola Tesla, qui était prodigieux comme scientifique.
Ça, j'allais dire, allez pas penser que le nom de la compagnie d'automobile est issu du cerveau d'Elon Musk, parce que c'est un acronyme qui veut rien dire. C'est vraiment un gars qui a existé, Nikola Tesla. Merci. Merci Sébastien de rendre hommage à ce bonhomme qui a eu une pareille importance dans l'histoire de l'électricité, entre autres choses, oui. Et un paquet d'autres domaines. Vous glisse un petit mot au cours des deux prochaines minutes sur les 27e rendez-vous de la francophonie. C'est parti depuis le 1er mars dernier. Ça va se dérouler jusqu'au 31 mars. C'est un événement annuel. Ça célèbre la langue française, les cultures francophones à travers le monde, mais plus particulièrement dans le cas qui nous intéresse, la francophonie canadienne, parce que les rendez-vous de la francophonie, c'est ici au pays qu'on fête ça. Alors, pendant tout le mois de mars, il y a des activités enrichissantes et festives, que ce soit en ligne ou encore de façon physique, parce que vous pouvez vous déplacer à certains endroits pour assister à des spectacles, des activités en français et tout ça. Et il y en a littéralement pour tous les goûts, hein, du théâtre en français, de la musique, du cinéma, de l'humour. Je vous donne des exemples. On peut visionner des films gratuits de l'ONF. On peut assister à la tournée d'humour des rendez-vous de la francophonie qui s'arrête. Ça a commencé au mois de janvier, la tournée, mais ça s'est déroulé en février, puis ça continue pendant le mois de mars. Ça va aller un petit peu partout à travers le pays, des expositions, nommez-en. Rendez-vous de la francophonie, je vous dirais que c'est aussi, dans une certaine mesure, une façon de promouvoir des valeurs qui caractérisent la francophonie, c'est-à-dire la solidarité, la diversité culturelle, le partage. Et en plus, ben il y a des concours, il y a des activités pédagogiques si on veut apprendre des choses, par exemple sur le français, parfaire notre connaissance de la langue française. Ben c'est le rendez-vous là, les rendez-vous de la francophonie. Alors visitez le site officiel et je vais être clair là-dessus. Je vais vous inviter à passer sur le rvf.ca, rvf comme rendez-vous francophonie, donc rvf.ca si vous voulez. À rien manquer, allez faire un petit tour dans l'onglet du menu. Ça s'appelle Activités. Il y a un calendrier, là, calendrier des activités qui pourraient se dérouler pas très loin de chez vous. Alors, c'est du 1er mars jusqu'au 31 mars prochain. On marque une pause, la première de l'émission. Nous revenons dans un instant avec une multitude d'autres sujets, dont, entre autres, laisse-moi regarder les nappes phréatiques. Hein, Sébastien?
Absolument. On va savoir qu'est-ce que c'est cette eau-là, puis elle est très importante.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Vous savez, quand on cherche sur Internet, ça arrive de temps en temps qu'on tombe sur des informations personnelles. On voit apparaître notre date de naissance pour une raison ou une autre, une photo, des choses comme ça. Puis on se dit, voyons, mais ça se fait que c'est là. Ben ça arrive hein, que des informations personnelles se retrouvent sur Internet pour une multitude de raisons. Eh ben réjouissez-vous, mesdames, messieurs, parce que Google, qui est en quelque sorte la porte d'entrée de l'information en ligne, hein, c'est le moteur de recherche quand même le plus connu, va rendre plus facile la suppression de vos informations personnelles. Ils ont fait récemment une mise à jour du moteur de recherche et il y a un outil qui s'appelle, il était déjà là, hein, il existait depuis 2022, il s'appelle Results About You. Mais là, ce qui est de révolutionnaire ou la grosse transformation dans tout ça, c'est que ça va être beaucoup plus facile de trouver cet outil-là et de l'utiliser. Parce que maintenant, Results About You est carrément à côté de chaque résultat de recherche. Si Sébastien, par exemple, tape Sébastien Boucher, puis il voit quelque chose où il y a son adresse, son numéro de téléphone, puis il veut pas que ce soit dans les résultats de Google, il va y avoir un petit menu à chaque résultat, un petit menu avec trois points sur lesquels tu cliques, puis tu vas avoir les détails des informations qui te concernent, et c'est là qu'on va pouvoir désormais demander la suppression justement de nos informations personnelles. Ça va être, je vous le dis tout de suite, un peu contre-intuitif, parce que pour faire supprimer des renseignements personnels, va falloir fournir certains renseignements personnels. Ben, c'est parce que si vous voulez dire à Google, retire mon adresse des résultats de recherche, il va falloir qu'il y ait un match, tu comprends? Il va falloir que tu dises, voici l'adresse que je veux que tu supprimes, tu comprends? Ça fait un peu contre-intuitif, mais dites-vous une chose, c'est que si c'est déjà dans Google, Ben, c'est qu'ils l'ont déjà, l'information. Donc, la seule affaire, c'est que faut vérifier si l'information, effectivement, correspond avec vous. Mais, cela dit, je fais juste vous informer, c'est que les résultats vont pas disparaître de l'Internet, comme par magie. Ce que Google va faire, c'est que ils vont faire supprimer de leurs résultats de recherche des résultats qui sont à quelque part dans l'Internet, mais qui seraient pas possibles de trouver, ou en tout cas plus difficilement qu'en utilisant Google. Vous suivez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez dire à Google, « Gars, Google, moi, je veux plus que tu affiches dans tes résultats de recherche ma date de naissance ou encore mon adresse ou des trucs comme ça. Peux-tu enlever ça? » Google va les enlever, mais il peut pas ordonner à un site web qui aurait coulé cette information-là. Il peut pas les enlever, ces infos. Mais ça va être, on s'entend, là, beaucoup plus difficile désormais, parce que Google, tu sais, ça doit être à peu près 80% des recherches en ligne. Je donne un chiffre, c'est dans cet ordre-là. Donc, des recherches qui sont faites sur Google, mais en le faisant disparaître le résultat, ben, ça devient beaucoup plus difficile pour les gens de trouver ça. Alors, quand on va demander la suppression d'informations personnelles de Google, on va vous inviter à fournir, comme je le disais, des petits détails supplémentaires. Ça prend quelques secondes, c'est pas très long. Et dans Results About You, ben, vous allez pouvoir suivre après ça les démarches qui sont faites pour Google pour supprimer. Puis une fois que ça va être fini, ben, on va vous dire, bon, les informations là que vous trouviez un peu touchy, là, si vous me permettez l'expression anglaise, et ils sont disparus. Et c'est pas la première fois que Google remanie cet outil-là. En 2023, ils avaient introduit une fonctionnalité qui avait rendu cette fonctionnalité-là ou cet outil-là de Results About You, résultats à vous concernant ou à propos de vous, là, si on traduit en français. Ils avaient rendu ça beaucoup plus proactif parce que ils analysaient en amont les résultats pour être capable de tirer ce qui leur apparaissait comme un petit peu personnel, de telle façon que quand vous arriviez pour supprimer des résultats, déjà, il y avait une petite idée de ce qui était pas correct nécessairement. Mais là, il y a un tableau de bord désormais qui est très, très facile à trouver, beaucoup plus que ce l'était jusque-là. Et maintenant, quand vous sortez un résultat à propos de... Ça t'arrive-tu des fois, Sébastien, de te googler? Fais-tu ça des fois?
Non, je l'ai pas fait. Je m'attendais pas à ce qu'il sorte quoi que ce soit. Je vais le faire, là, par contre.
Vous devriez. Faites ça de temps en temps. Cherchez votre nom, votre identité. Mettez des guillemets au pis-aller pour qu'il y ait vraiment Sébastien Boucher, là, tout en un mot. Il faut y avoir des affaires surprenantes qui sortent sur nous autres. Faites ça.
Puis là, on va pouvoir aller enlever les choses qu'on veut pas que ce soit public.
Puis là, si jamais tu trouves qu'il y a quelque chose d'un peu touchy, c'est sûr que si tu as gagné un trophée au hockey pendant un tournoi, une affaire de même, puis c'est sorti dans les nouvelles, c'est peut-être un peu d'intérêt public parce que tu as consenti à ce qu'on te photographie puis qu'on fasse une nouvelle. Mais s'il y a des affaires, par exemple, comme des informations bancaires, tu sais, j'extrapole, là, qui sont dans Internet, ben, ce serait peut-être une bonne idée de les faire supprimer. Puis Google rend ça maintenant apparemment beaucoup plus facile, disons, de les faire enlever, ces résultats-là.
Intéressant.
Et là, toi, tu veux nous parler des nappes phréatiques. On entend parler de ça des fois, puis c'est quoi les nappes phréatiques?
Ben oui, as-tu une idée, Simon? Qu'est-ce que c'est exactement une nappe phréatique?
Ça doit être dans la terre.
Ben, certain. Hein? C'est, okay. c'est des réserves d'eau qui se situent sous la terre.
OK.
C'est en fait dans les roches poreuses. Un peu comme l'eau, ça se retrouve dans une éponge, là.
Oui.
Bon, ben dans la terre, ça fait un peu le principe d'une éponge, puis la nappe phréatique, c'est l'eau qui se retrouve là. L'eau des nappes souterraines, qui est notre plus grande ressource d'eau, d'ailleurs, potable de qualité, hein, sur Terre. Puis là, on souffre de la consommation abusive de l'homme et de la pollution, bien sûr, du côté des nappes phréatiques. Mais les nappes phréatiques peuvent se vider peu à peu, puis même finir par s'assécher au complet. Alors, il y a des pays qui n'avaient pas de problème aujourd'hui en rencontre maintenant. Alors, faut prendre ça très au sérieux. La nappe phréatique, en fait, c'est une réserve d'eau qui se trouve sous la surface de la Terre, comme on l'a dit, au-dessus d'une poche de terre imperméable. Alors, il y a à peu près 95% de l'eau douce qui est stockée dans les nappes phréatiques. Une grande partie de l'eau qu'on consomme est donc issue des nappes. On parle entre 25 et 40% à peu près pour la population. Mais les nappes phréatiques sont le plus gros réservoir d'eau potable de la planète. Elles sont alimentées par les infiltrations d'eau de pluie. Puis, cette eau-là, très bonne qualité parce qu'elle est protégée par une couche d'argile qui sert de filtre. Et il faut la préserver parce que c'est une ressource précieuse. Là, en fonction des couches qui la structurent, c'est possible de classer les nappes en trois catégories. Il y a les nappes libres, les captives puis les semi-captives. Bon, les libres, l'eau, c'est le niveau de l'eau peut varier sans être bloqué par d'autres couches qui seraient imperméables. Les captives, bien, sont capturées par les couches de terre. Et si on perce une nappe captive, l'eau remonte et peut même jaillir. Là. C'est le phénomène d'artésianisme. Tu sais, quand on dit un puits artésien.
Ben, voilà, exact, ouais. Ouais.
Mais les nappes captives sont peu nombreuses, mais souvent mieux protégées des pollutions. Puis les semi-captives, les parois de la nappe sont semi-perméables. Bon. Mais c'est important de distinguer deux types de nappes phréatiques. Il y a celles qui se rechargent régulièrement en eau, avec la pluie, là, par exemple, puis d'autres qui sont plus anciennes, sont plus profondes. On dit des nappes phréatiques fossiles ou encore paléo-hybriques, et elles se renouvellent plus. Alors, si elles sont vides, elles sont vides. Et le débit de l'eau n'est donc pas infini. Dans beaucoup de régions de la planète, on pompe les nappes phréatiques plus rapidement qu'elles se rechargent. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, on les vide, puis ça pourrait être un sérieux problème. En plus, la nappe phréatique, c'est la nappe la plus exposée à la pollution en provenance de la surface. Il y a l'agriculture, surtout, là, qui est une double menace pour les nappes phréatiques. Il y a les pompages pour répondre aux besoins en eau qui sont toujours grandissants. Là, on fait de plus en plus d'agriculture. Puis beaucoup d'engrais, des pesticides, puis dans les eaux de pluie vont emmener dans les réservoirs souterrains. Alors, même si la pollution est en grande partie d'origine agricole, elle peut provenir aussi des industries, parce que les fuites d'ordures industrielles, les contaminations des sols, les retombées aussi atmosphériques des fumées des industries, ben tout ça peut aller polluer la nappe phréatique. Puis les nappes en bordure de littoral sont sensibles au risque de pollution saline, un phénomène qu'on appelle le biseau salé ou aussi l'invasion marine. Souvent, c'est dû à un forage excessif. Puis là, pendant la saison touristique, par exemple, quand on veut beaucoup plus d'eau pour la piscine ou pour entretenir des golfs, des terrains de golf, ben là, l'eau de mer vient combler le trou et ça emmène de la salinité dans l'eau. Alors, c'est un problème aussi. Et dans la vie de tous les jours, on peut polluer nous-mêmes les nappes phréatiques si on fait pas attention. Comme par exemple, quand on jardine avec des produits nocifs pour l'environnement, ça peut se retrouver dans la nappe phréatique. Et c'est possible de diminuer notre consommation d'eau ou d'adopter des gestes qui nous permettent d'éviter de polluer. Une nappe phréatique, ça peut se dégrader, comme par exemple par l'enfouissement de substances polluantes, ça c'est sûr. Et dans des matériaux poreux comme des sables, des substances polluantes, ça se disperse vraiment trop sur un grand périmètre. Puis la roche aussi est souvent fracturée, alors ça peut laisser passer la pollution, contaminer les sols. Donc l'enfouissement, le mieux c'est dans l'argile.
Oui.
C'est moins risqué, c'est une matière imperméable. C'est l'idéal pour pas polluer nos nappes phréatiques. Il y a des experts qui conseillent la création de parcs naturels hydrogéologiques, des grands espaces de terre qui serviraient à préserver justement les nappes d'eau de bonne qualité. On interdirait toute pollution dans ces parcs-là. C'est impossible de prévoir exactement ce qui va se passer dans les prochaines décennies, là. Mais on sait qu'il y a surpopulation, la pollution, réchauffement climatique, ça nous pousse à s'inquiéter à l'avenir de l'homme et de la planète. Et les nappes phréatiques en seront une victime, là, certainement. Il y a beaucoup d'experts qui ont peur qu'il y ait une guerre de l'eau qui éclate entre des pays frontaliers qui se partagent l'eau, comme par exemple la France et la Belgique pour entrer en guerre de l'eau. On pourrait même penser au Canada et aux États-Unis, hein, quand Trump emmenait des affaires de « on va prendre l'eau du Canada », là. Ben c'est ça. Des guerres de l'eau, là, ça pourrait s'en venir sur la planète. Puis dans des régions où les précipitations sont rares, comme certaines parties du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Australie, bien, les nappes phréatiques sont souvent la principale source d'eau pour l'agriculture, l'industrie et la consommation domestique. Alors, c'est hautement important. Beaucoup de régions agricoles à travers le monde aussi, comme les États-Unis, l'Inde, la Chine, utilisent intensivement les nappes phréatiques pour l'irrigation. Puis dans plusieurs régions rurales isolées, ben il y a des puits, des forages qui sont utilisés pour extraire l'eau des nappes phréatiques. Alors, si on regarde, les nappes phréatiques côtières là, sont vraiment importantes pour l'approvisionnement en eau des villes, des industries situées près des côtes. Donc, c'est de là qu'elle vient notre bonne eau douce, propre à la consommation, puis va falloir la garder en bonne santé.
Elle n'est pas juste tirée du fleuve Saint-Laurent ou encore des rivières dans certaines régions, mais elle vient, comme tu le dis, de ce qui se passe en dessous de la terre, pas des farces. Hein. Je veux vous glisser un petit mot en 1 minute et demie, 2 minutes gros maximum sur une campagne de sensibilisation qui bat son plein actuellement partout dans les radios. Je dis les radios, mais les médias de façon générale à travers le pays. Soutenez vos médias locaux. Je veux saluer votre radio, votre station sur laquelle vous nous écoutez actuellement qui participe à cette campagne. On est ces jours-ci, vous le savez, dans une espèce de campagne où on incite les gens à acheter localement. Hein, on encourage les gens, soutenez vos entrepreneurs locaux, achetez vos fruits et légumes produits localement, autant que faire se peut, achetez vos céréales, votre pain, tout ça, canadien. Ben, une chose que les gens oublient plus souvent qu'autrement dans leur réflexe de consommation médiatique, c'est de consommer des médias locaux, des médias de chez vous. ce qu'on vous dit, c'est ce n'est pas de bouder nécessairement tous les médias américains. Je vous tordrai pas le bras, je rentrerai pas dans la maison chez vous pour vous empêcher de regarder CBS, NBC, ABC et compagnie. Mais ce qu'on vous encourage à faire, c'est que lorsque vous avez un réflexe à poser pour l'information, le divertissement, essayez donc d'avoir le réflexe des médias qui sont chez vous, parce que ce sont des gens qui emploient du monde de votre communauté, ce sont des gens qui redonnent à l'entrepreneuriat privé, hein, en faisant la promotion des commerces locaux. Alors, ils ont un rôle très important. Là, je parle de votre radio communautaire francophone dans votre localité, mais c'est la même chose pour votre télévision nationale, provinciale ou locale. C'est la même chose pour votre journal. Soutenez vos médias locaux. C'est la meilleure chose à faire. Ça coûte rien. Ça coûte absolument rien. Tout ce qu'on vous dit, c'est que quand vient le temps de zapper ou quoi que ce soit du genre, puis de consommer des sites web également où on propose de l'information, pensez donc à vos médias locaux d'abord et avant tout. Une campagne qui est soutenue par, je pense qu'on est rendu à quelque chose comme une cinquantaine de médias et d'organisations médiatiques à travers le pays, dont nous autres de l'Alliance des radios communautaires du Canada. Faut marquer une deuxième pause dans l'émission pour mieux revenir dans un instant avec notre troisième ligne droite et on va se transporter dans l'espace, entre autres choses. Alors, restez branchés.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
C'est la troisième portion de « Peut contenir des infos » et on vous rappelle, si vous avez des commentaires à nous formuler ou encore si vous avez des questions à nous poser, des suggestions même de thèmes, je vous dirais, que vous aimeriez qu'on aborde, ben écrivez-nous pcdi@radiorfa.com. On la donne pas souvent, l'adresse de courrier électronique, mais si vous voulez nous saluer puis nous dire « Hey, on t'écoute, Simon. Hey, on t'écoute, Sébastien. On est, nous autres, je sais pas, moi, du côté des prairies canadiennes ou encore on est en Atlantique. » Faites-vous connaître. Faites-vous entendre. Dites-nous, on écoute puis on aime bien ça. Ou encore, on n'aime pas ça, je sais pas, mais tu sais, ça arrive des fois. Hein?
Ben les commentaires sont toujours très appréciés. On va les prendre.
C'est ça, on va les prendre. Qu'ils soient bons ou qu'ils soient pas bons, tu sais, je me dis, à quelque part, si quelqu'un prend le temps de m'écrire pour me dire « t'es bien pas bon », ben, coudonc, tu sais, vous avez deux choix. Vous pouvez zapper ou continuer à m'écouter puis m'écrire, m'envoyer un courriel.
Parlez-en, en bien ou en mal, mais parlez-en.
Exactement ça. Tu veux nous parler de découvertes ou en fait de certaines choses qui pourraient nous en apprendre peut-être un petit peu, même pas mal, sur Mars, si tu voudrais ça?
Oui, c'est notre bloc Cosmos. On part là-dedans. Moi, je vais te parler de fossiles qui ont été retrouvés récemment en Algérie et qui pourraient dévoiler les secrets de la vie sur Mars. Mais rien de moins. Une découverte là qui a été faite qui pourrait changer notre compréhension même de la vie sur Mars. Alors, des fossiles qui ont été retrouvés dans des formations géologiques de la carrière de Sidi Boudbal. C'est dans le nord de l'Algérie. Et puis, ça nous montre, ben, ça nous offre des indices qui sont cruciaux, qui pourraient nous aider à résoudre un des mystères les plus fascinants de l'astrophysique, là. Est-ce qu'il y a de la vie qui a déjà eu sur Mars? On n'a pas de preuves encore. Et puis, selon une étude qui a été publiée assez récemment, le 25 février, dans la revue Frontiers, ben, les fossiles qu'on a retrouvés en Algérie proviennent de gisements de gypse. C'est une roche formée dans des conditions semblables à ce qu'on retrouve sur la planète Mars. Donc, pourquoi pas étudier ça et faire des parallèles. Les formations gypseuses se sont formées durant la crise de salinité du Messinien. Et ça, tu m'en avais parlé il y a de cela plusieurs mois là à l'émission, mais il y a environ 5 millions d'années quand la mer Méditerranée était presque complètement asséchée.
C'est ça.
Bon, mais c'est des formations gypseuses qui viennent de ce temps-là. Puis, les dépôts sont maintenant considérés comme pareils, des analogues parfaits de sulfate martien. Alors, les chercheurs ont découvert des filaments microbiens fossilisés dans ces gisements-là qui ressemblent à des structures de microbes sulfurisants, qui sont pareils à ce qu'on pourrait trouver sur Mars. S'il y a des formes de vie qui ont été là dans le passé, là, sur la planète Mars, ça va ressembler exactement à ce qu'on a retrouvé en Algérie. Donc, formation gypseuse de la carrière de Sidi Boudbal, qui sont riches en sulfate. Aujourd'hui, c'est un des sites les plus étudiés, justement, pour comprendre les conditions qui auraient permis la vie sur Mars. Et si elles sont des vestiges de micro-organismes anciens, ces fossiles-là, ben, ils pourraient fournir un modèle précieux pour la recherche de biosignatures sur la planète rouge. Donc, découverte qui a été rendue possible grâce à des techniques de pointe, spectrométrie de masse, qui permet d'analyser en détail la composition chimique des fossiles. Puis les scientifiques ont utilisé un spectromètre de masse miniaturisé qui a été conçu pour être déployé dans des futures missions spatiales. Exactement ce qu'on va faire pour identifier des traces de vie microbienne. Ces techniques-là permettent d'examiner les éléments chimiques qui sont présents dans les fossiles, comme le carbone, le soufre, le magnésium. Puis ça, c'est des indices essentiels pour confirmer la présence de vie. Alors, on est bien avancé là-dedans. Puis l'utilisation de la spectrométrie pour analyser des fossiles retrouvés en Algérie, c'est un exemple parfait de la manière dont la technologie peut nous aider à percer des secrets de la vie extraterrestre. Ce type de recherche-là pourrait être crucial dans les prochaines missions sur Mars, puis l'Algérie, avec sa géologie qui est unique, ça devient donc le site parfait, le site clé pour l'astrobiologie. Et là, en étudiant les fossiles qui ont été retrouvés en Algérie, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment les structures de microbes pourraient être préservées dans des conditions extrêmes. Puis les géologues, les astrobiologistes se sont accordés pour dire que les gisements de sulfate sur Mars, qui sont semblables à ceux observés en Algérie, peuvent offrir une opportunité de découvrir des traces de vie ancienne. Alors, le gypse en tant que tel, là, qui se forme rapidement dans des environnements aqueux, ben ça va jouer un rôle crucial dans la préservation des microbes. Puis, comme les fossiles qui ont été retrouvés en Algérie, les micro-organismes sur Mars pourraient être piégés dans des dépôts minéraux au fil du temps, puis ça permettrait leur conservation pendant même des milliards d'années. Alors, c'est ce qu'on espère, hein, qu'ils soient pris dans le gypse. Puis, une découverte qui pourrait transformer nos approches de l'exploration martienne. Les scientifiques n'ont jamais arrêté là, de chercher des signes de vie passée sur Mars. Ça fait longtemps qu'on est là-dedans. Mmh. Les fossiles retrouvés en Algérie, ça montre qu'il existe des analogues terrestres. Alors, c'est vraiment ça. Ça peut nous aider à affiner nos méthodes de détection. Et les futurs petits robots, les rovers qu'on appelle, les missions spatiales, comme celles qui sont prévues par la NASA et l'ESA, vont utiliser des technologies similaires à ce qu'on utilise en Algérie. Pour détecter des fossiles martiens. Puis les implications sont énormes, là. Si la vie a existé sur Mars, bien, ça ouvrirait un chapitre assez fascinant, on va dire, de l'histoire du système solaire. Puis en étudiant des sites comme en Algérie, Sidi Bou Sidi Bou, bien, les scientifiques espèrent apporter des réponses à une question qui passionne l'humanité depuis trop longtemps, on va dire des siècles. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? On se dit que sûrement pas, parce que c'est gros, puis il y a des planètes partout, mais on n'a pas de preuves encore qu'il y aurait d'autres vies. On dirait qu'on est le petit joyau bleu là, en plein milieu d'un cosmos immense. Donc voilà, on va avancer avec ça. Puis c'est bien d'avoir quelque chose pour se fier, pour comparer avec ce qu'on a sur Terre ici. Ça va beaucoup aider.
Quand même un peu spécial de penser que dans notre course à la conquête spatiale, alors qu'on essaye de chercher des réponses à nos questions à des centaines, des milliers de kilomètres de la planète Terre en allant se rendre sur Mars, hein, on envoie des sondes puis des choses comme ça. C'est fascinant de penser que la prémisse ou enfin peut-être que certaines réponses à nos questions se trouvent pratiquement dans la cour en arrière de chez nous. Là, tu nous parles de l'Algérie. C'est pas la porte à côté quand tu marches, là, mais on s'entend que pour trouver des informations, des réponses à nos questions, c'est pas mal plus proche que d'envoyer des sondes spatiales sur la planète Mars. C'est un peu spécial, hein?
Ouais, puis avoir du gypse, hein, qui est comme un peu l'élément clé dans cette histoire-là. Mais il y a tellement de grande diversité sur Terre, faut pas s'attendre. Il y a tellement de tout. Moi, j'imagine on trouverait de la vie extraterrestre d'une planète qui serait aussi habitée que la nôtre, puis ça ressemblerait parce que c'est tellement divers. Il y a de tout. Il y a toutes sortes d'animaux, toutes sortes. On a vu toutes sortes de créatures. Donc, il y a tellement de diversité sur Terre que je me dis ailleurs, ce serait la même chose. Sensiblement, là.
Et plus on en apprend sur la création de l'univers et de notre planète et du système solaire, plus on en arrive à la conclusion que oui, il y a des affaires qui étaient très décalées, mais il y a des choses qui se sont passées quand même de façon assez rapprochée, si on peut dire, qui font qu'il y a peut-être des analogies à quelque part ailleurs sur d'autres planètes, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Alors, wow, c'est spécial. Le gypse. Ça, le gypse, c'est pas ça qu'on retrouve dans les murs de Gyproc, ça?
Non, mais je pense bien que oui. Oui.
OK. Oui. Des farces, on a ça dans la maison chez nous. Tout de même. Ah, d'accord. je vais vous parler de quelque chose un peu singulier qui s'est produit le 2 mars dernier. C'est un événement qui s'était encore jamais produit. Et ça s'est passé à plus ou moins 400 000 kilomètres à peu près, la Lune, hein, notre
satellite. 400 000, c'est dans ce bout-là.
400 000 kilomètres à peu près au-dessus de nos têtes. Ben, imaginez-vous qu'il y a une première sonde spatiale appartenant à une entreprise privée qui s'est posée sur le sol lunaire. Ça s'était jamais vu.
Et voilà, c'est fait.
On se demandait quand est-ce que l'entreprise privée allait mettre le pied sur la Lune. Ben, c'est pas encore l'être humain, là, mais ça reste quand même une entreprise privée qui est en train de pas s'arracher un morceau de notre satellite, mais mettre sa patte dessus, on va dire. C'est la sonde Blue Ghost de l'entreprise texane Firefly Aerospace qui s'est posée tout en douceur et à la verticale sur le sol de la Lune dans une région qu'on appelle la mer des crises. Alors, tu sais que la Lune, on a donné des noms à certaines mers, hein? Alors, parmi celles-là, il y a donc la mer des crises. C'est une mer lunaire. Il n'y a pas d'eau sur la Lune.
Il y a de l'eau, mais pas liquide.
C'est ça, exact. OK, voilà. Alors, voilà, il y a de l'eau, mais pas liquide, comme pas nos mers à nous autres, c'est ce que je voulais dire. Tu comprends ce que, tant qu'une mer lunaire, c'est pas la mer Méditerranée ou c'est pas la mer de je sais pas trop quoi, là, mais c'est des mers lunaires, ça a la forme d'une mer à toute fin utile. Elle est de forme ovale. Elle est située dans le bassin des crises, tout juste au nord-est, à peu près de la mer de la Tranquillité. Et tu sais ce qu'est la mer de la Tranquillité?
Oui, je l'ai vu sur des cartes de la Lune.
Ben oui, ben c'est la mer, c'est l'endroit où s'est posé le module lunaire de la mission spatiale Apollo 11.
Ah oui,
hein? Alors c'est Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Buzz Aldrin qui s'était posé en juillet 1969. Donc, la mer de la Tranquillité est juste un petit peu au nord-est de cette fameuse mer des crises où s'est posé il y a quelques jours de ça, le 2 mars dernier, cette sonde spatiale Blue Ghost. Ça a pris quand même 2 semaines là de voyage à la sonde spatiale pour atteindre la mer des crises. Et c'est de cette façon-là donc que l'entreprise Firefly Aerospace a été la première société privée à réussir pleinement un alunissage. Hein, on peut pas dire atterrissage.
On peut le dire, mais ce serait pas correct.
C'est ça. Le terme serait pas juste. Alunissage, atterrir sur la Lune. Atterrissage, atterrir sur la Terre. Je sais que c'est un peu de la sémantique, là, où c'est joué sur les mots, mais en tout cas. Faut dire que cette entreprise-là, ils mettent le paquet, là. Il y a plus de 750 employés qui travaillent pour Firefly Aerospace et ils sont associés à un programme de la NASA qui soutient financièrement de telles initiatives privées de l'exploration spatiale parce que on sait que depuis quelques années, il n'y a pas un désengagement nécessairement du gouvernement à l'égard de la conquête spatiale, mais mettons qu'on déréglemente, est-ce que je peux dire ça comme ça, Sébastien, ou en tout cas, on ouvre un petit peu plus la place à l'entreprise privée, et c'est un peu dans ce programme-là que Firefly s'est inscrite pour envoyer une sonde sur la Lune. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coup de génie, là, quelque part, là, une entreprise privée qui réussit à faire poser une sonde sur le sol lunaire sans encombre, parce que il y a d'autres entreprises avant elle qui avaient essayé, mais qui avaient échoué. En 2024, il y en a deux qui s'étaient carrément écrasées. Puis il y a une troisième entreprise qui avait réussi, oui, à se poser sur la Lune un an auparavant, donc il y a 2 ans de ça, mais le problème, c'est que la sonde n'était pas restée debout. Pouf, c'était couché sur le côté. Donc, à l'horizontale, ça a pas fait une grosse mission, autant vous dire. Et Blue Ghost devient donc la première sonde spatiale privée à se poser sans problème. Elle a une mission qui va durer en tout et pour tout 14 jours terrestre. Alors, ça va lui permettre d'actionner, de tester différents instruments, dont une foreuse et un collecteur d'échantillons. Et elle pourra aussi observer, donc, la sonde Blue Ghost, différents phénomènes, dont une éclipse lunaire totale qui va se produire pendant son séjour là-bas et un coucher de soleil depuis la surface de la Lune. Dans l'hémisphère nord, là, si ça vous tente de jeter un coup d'œil, vous levez la tête puis regardez où est située la mer des crises, on peut voir la mer des crises à l'œil nu sur le bord supérieur droit de la Lune, mais j'aime autant vous le dire, que vous ayez ou pas un télescope, ça va être bonne chance à cette distance-là, à 400 quelques mille kilomètres, pour voir une sonde spatiale sur la surface de la Lune. Tu peux bien voir les contours d'une mer, là, mais de là à voir une sonde, là, c'est une bonne chance.
On verra pas la sonde.
Ben, fiez-vous aux nouvelles, fiez-vous à ce qu'on vous rapporte comme information, puis vous avez plus de chances d'avoir de l'info que d'essayer avec votre télescope d'avoir une sonde spatiale sur la Lune à partir de la surface terrestre. Tu nous parles dans un instant, dans ton quiz, du printemps.
Oui, et puis c'est toi qui devras répondre à toutes mes belles questions. 20, là, j'ai trouvé que c'était un beau chiffre rond. Ça va être facile de compter ton pourcentage. On va faire un beau x5 à tes bonnes réponses.
OK, parfait. Alors, on vient dans un instant. Restez branchés.
Quiz.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Le quiz. Le quiz.
On entame à ce moment-ci de l'émission notre dernier bloc, dernière ligne droite de Peut contenir des infos. Puis j'espère que vous l'appréciez jusque-là. Sébastien, qui nous a préparé un de ses sondages, pas de ses sondages, mais d'un de ses quiz.
Ben oui, ça vient de le sonder. Dire, Simon. C'est le quiz.
Il va nous sonder en même temps. un quiz sur le printemps.
Ben oui, qui s'en vient, puis que j'ai hâte. Alors, je devance un peu la date pour arriver à parler du printemps tout de suite, parce que moi, dans mon cœur, il est arrivé. Mais faut dire qu'on a été chanceux au sud-est du Nouveau-Brunswick, comme je te le disais en début d'émission. On a eu du beau temps là, récemment, donc ça donne une ambiance printanière.
Bon, mais tant mieux.
On parle de printemps. Puis comme on était dans le cosmos au dernier bloc, ma première question, on va rester dans le thème un peu. En fait, première question, parce que le printemps, c'est une thématique très large, hein, là, où je vais avoir des questions sur les plantes, les animaux, les fêtes du printemps, les événements historiques, tout plein de choses. Fait vrai, on ratisse large dans les 20 questions. Mais la première, quel phénomène se déroule lors de l'équinoxe du printemps, Simon? Est-ce que A, les deux hémisphères sont éclairés égales? Puis l'équinoxe, bien sûr, là, c'est la date où le printemps arrive, le 21 mars, habituellement. Alors, est-ce que les deux hémisphères sont éclairés égales? Est-ce que le soleil est au point le plus loin de la Terre? Est-ce que C, c'est le jour le plus court dans l'hémisphère nord? Ou D, le soleil est au plus proche de la Terre?
Je dirais... Je sais que l'équinoxe, c'est la durée égale du jour et de la nuit. Donc, je dirais qu'il doit être... c'est quoi le premier choix que tu donnais?
Les deux hémisphères qui sont éclairés égales.
Ouais, je dirais que c'est ça, la réponse A.
Mais tout à fait. Par déduction, tu l'as bien appliqué. Okay. Aux équinoxes de printemps et d'automne, en fait, c'est la même chose. Le soleil est pile à la verticale au-dessus de l'équateur. Donc, la durée du jour est la même pour les deux hémisphères. Tout à fait, tout à fait. Alors, première bonne réponse. Deuxième question, quel est le nom de la déesse romaine de la fertilité et du printemps? Mais heureusement pour toi, j'ai un choix de réponse.
Okay.
Est-ce que c'est Aurore, Maya, Luna ou Vénus, la déesse romaine de la fertilité et du printemps?
Vénus, je dirais.
Ah, je savais que tu allais dire ça, mais ce n'est pas la bonne réponse. Okay. Et je m'étais fait avoir, j'avais testé moi aussi, j'avais dit « Vénus, ça doit être ça ». Ben non, c'est la déesse Maya qui a donné son nom au mois de mai. Et dans la mythologie, Maya, c'est l'épouse du dieu de feu Vulcain. Puis Maya personnifie et favorise l'accroissement des choses vivantes, en particulier le développement des végétaux. Donc, c'est la déesse romaine de la fertilité et du printemps, Maya. OK, quelle est la bonne expression à propos du printemps? Je vais te nommer des expressions, puis il y en a une qui est correcte, et les autres, c'est pas la bonne, je vais t'en nommer juste deux. Est-ce qu'on dit « une hirondelle fait le printemps » ou « une hirondelle ne fait pas le printemps »?
Une hirondelle ne fait pas le printemps.
Oui, est-ce que tu sais ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire qu'il faut pas se fier à quelque chose pour tirer des conclusions, là, grosso modo.
À peu près ça, ouais. Il faut pas un seul exemple. On peut pas tirer des conclusions générales, ouais. Okay. Parce que c'est possible de voir des hirondelles avant le début du printemps. Mm-hmm. Donc, faut pas tirer trop de conclusions. Tout à fait, tout à fait. Ben, ça va très bien, là. Je pense tes réponses.
Deux sur trois. Deux sur trois. J'ai marqué Maya tantôt.
Ok, Maya, c'est vrai. Question 4. Dans quel pays on célèbre les couleurs aux alentours de l'équinoxe du printemps avec la fête de Holi? H-O-L-I. Est-ce que c'est au Mexique, au Pérou, en Inde ou en Chine?
Je dirais probablement au Pérou.
Mauvaise réponse, c'est en Inde. Okay. La fête de Holi tire son origine de la mythologie hindoue pour célébrer la victoire du bien sur le mal et la fertilité. Donc, le jour de Holi, tout le monde se jette des poudres de couleur.
Ah!
T'as peut-être déjà vu ça, la fête?
Oui, j'ai déjà vu ça, OK.
On se garoche du toner.
Du toner pour imprimante.
Ouais, c'est à peu près ça. OK. Cinquième, on y va pour une vraie ou faux. C'est au printemps que les cerfs perdent leur bois. Vrai ou faux?
C'est faux.
Mais non, c'est vrai.
C'est vrai, hein? OK.
Oui, okay. Un phénomène naturel, ils perdent leur bois, ça se produit après la saison du rut. Okay. Qui est entre fin février, mi-avril pour les cerfs. Okay. Donc, tout de suite après, c'est le printemps et c'est là qu'ils perdent leur bois.
OK. Pas chasseur, okay. Hein, soit dit en passant.
Comment?
J'ai dit, je suis pas chasseur. Ça fait que...
Ah, c'est ça, les chasseurs qui nous écoutent ont trouvé qu'ils ne l'avaient pas l'affaire.
Ouais, c'est ça.
OK, on va parler encore d'animal. Quel animal sort d'hibernation au printemps entre le renard, le sanglier, le hérisson ou le lapin? Sort d'hibernation au printemps.
Le hérisson.
Bravo!
Ouais.
Oui, comme ça. Je m'attendais à ce que tu ne l'aies pas, celle-là. Les hérissons qui hibernent pendant la période où ils trouvent peu de nourriture, puis c'est à peu près octobre, novembre, jusqu'à mars-avril. Donc, ouais, ils sortent d'hibernation au printemps, les hérissons. Autre question, dans quel lieu le passage au printemps est considéré comme l'entrée dans un portail d'énergie cosmique? Puis on fête ça avec des festivités. Est-ce que c'est au Machu Picchu au Pérou? Est-ce que c'est à la pyramide du Soleil au Mexique? La pyramide de Khéops en Égypte ou le Tanalot en Indonésie?
Je vais revenir. J'ai l'air de faire une fixation avec le Pérou, mais je dirais probablement Machu Picchu.
Mais non, malheureusement, non. C'est la pyramide du soleil au Mexique.
Ah, bon, okay.
Sur le site là où ils sont, le printemps, c'est l'occasion d'une grande célébration. Puis ils se rassemblent au sommet de la pyramide du soleil. La foule tend les mains vers le ciel pour rendre grâce à l'astre du jour et capter son énergie là, super spirituelle. Ça va être là. Donc, au Mexique, pyramide du soleil. Autre question, de quel pays le rouleau de printemps est-il une spécialité culinaire? T'aimes ça, des rouleaux de printemps?
Oui, ben oui, bien sûr.
Bon, est-ce que ça nous vient, est-ce que c'est une spécialité culinaire, en fait, du Cambodge, du Japon, de la Thaïlande ou du Vietnam?
Je serais tenté peut-être de dire le Vietnam.
Bravo!
Ouais, OK.
Les rouleaux de printemps, spécialité culinaire du Vietnam. Et bravo à tous ceux à la maison ou en voiture qui ont eu la bonne réponse. C'était pas facile. OK, quelle date est restée dans l'histoire de l'Europe comme le printemps des peuples? Est-ce que ça sonne des cloches, ça, le printemps des peuples?
Ouais, ça me dit quoi, ça?
1789, 1848, 1903 ou 1952? Le printemps des peuples. Je te dirai par la suite, vraiment.
Ouais, ça me dit quoi, mais comme 1900, je vais dire 1903, mettons, je vais vraiment prendre une chance.
Non, c'est 1848.
Okay, OK.
Le printemps des peuples, qui est le mouvement révolutionnaire que connaît une grande partie de l'Europe, en fait, ça a ébranlé l'ordre conservateur à l'époque. Des insurrections qui chassaient les souverains à ce moment-là. Donc, c'était vraiment le free for all. Et puis, on contraignait à octroyer une constitution. On a instauré des nouveaux régimes fondés sur la souveraineté nationale, les libertés fondamentales. Alors, toute une vague de contestation qui a balayé en quelques minutes ce qu'on appelle maintenant la vieille Europe. Okay. Ça s'est fait en 1848. On appelle ça le printemps des peuples. Dixième question. Quelles fleurs apparaissent généralement au début du printemps? Est-ce que ce sont les narcisses, les cosmos, les œillets ou les tournesols?
Je dirais les œillets, probablement.
Ce sont les narcisses.
Ah, les narcisses, OK.
Oui, puis il y a une grande confusion entre les narcisses et les jonquilles, en fait. Okay. C'est deux noms pour un bulbe à floraison printanière qu'on plante à l'automne. Mais même si le terme jonquille est souvent employé, en fait, c'est rare des vraies jonquilles. On n'a pas au Canada, ou presque pas, là, on parle de même pas 1% dans nos jardins au Canada. Alors souvent, quand on voit des jonquilles, en fait, ce sont des narcisses.
Oh, OK.
C'est le terme approprié pour 99% des narcissus qu'on cultive au Canada. Bon. Donc, voilà. Ça a l'air d'une jonquille, mais c'est une narcisse. Quel événement de la religion catholique est célébré au printemps? On va imaginer Pâques, hein, bien sûr. Alors, c'est la résurrection de Jésus, la manifestation de Jésus à tous les hommes, la montée au ciel de Marie ou la naissance de Jésus?
Ben, la résurrection du Christ.
Ben oui, elle est facile, celle-là. Fallait te donner un petit point. Douzième question. Non, t'en as eu pas mal.
J'en ai cinq, là, de bonnes.
C'est pas pire. Faudrait-tu te rendre à 12, ça serait bien. Que signifie printemps? OK, le mot printemps, si on pense à ses origines latines. Est-ce que ça voudrait dire le temps des primes, le temps des princes ou le premier temps?
Moi, le temps des primes, je vais dire ça de même.
Non, c'est premier temps, ça vient du latin prince, qui veut dire temps.
OK.
Et du mot temps, donc ça veut dire prince, qui veut dire premier, et le temps, qui veut dire temps. Alors, printemps, en latin, ça aurait fait premier temps. Quel signe astrologique n'est pas associé au printemps, dans ce que je vais te donner? Le cancer, le bélier ou le taureau?
Le bélier?
Mais non, c'est le cancer entre le 21 juin et le 22
juillet. Ben oui. Puis bélier, le taureau, je me suis mélangé parce que mon père est un cancer en plus, il est dans le mois de juillet. Ben oui, j'ai vraiment manqué celle-là.
Tu t'en veux, là.
Ouais, je sais pas pourquoi, là, mon esprit était vagabond, puis c'est correct.
Bon, voilà, tu peux te reprendre avec la prochaine. Quel est le nom du dieu grec qui, au printemps, emporte avec lui la belle saison? Et puis, je pourrais te donner un indice. Je vais te donner le choix de réponse, puis si tu veux l'indice, je vais te donner l'indice. Est-ce que c'est austère, mistral ou zéphyr?
Veux-tu l'indice? Mistral, probablement?
Tu réponds non, mais je vais te donner l'indice. Non. Son nom est celui d'un vent qui souffle dans l'ouest de la France.
OK, je pensais que c'était le mistral, mais c'est pas ça. C'est, non. C'est quoi, là?
C'est zéphyr.
C'est
dans
zéphyr,
la mythologie grecque. Puis zéphyr, c'est la personnification du vent de l'ouest ou du nord-ouest.
OK,
autre question. Qui a peint le tableau nommé « Le printemps » Puis je vais te donner un indice. C'est aussi le peintre qui a fait le tableau de la naissance de Vénus. Est-ce que c'est Raphaël, Michel-Ange ou Botticelli?
Oh my God! C'est une question, hein?
Le printemps.
Botticelli.
Bravo! Le printemps de Botticelli, c'est une peinture sur panneau de bois peinte vers 1478. Elle a été commandée par les deux frères Médicis, Lorenzo et Giovanni.
Eh ben...
OK, un plus facile un peu. Quelle fête, dans celle que je vais te nommer, n'a pas lieu au printemps? La Saint-Patrick, Pâques ou la Pentecôte?
La Pentecôte.
Mais non, la Pentecôte est au printemps, c'est la Saint-Patrick.
Ah, c'est la Saint-Patrick? Ah, OK, ben oui, parce que le printemps n'est pas encore commencé. OK, ben oui. Okay.
Ben oui, c'est le 17 mars, le jour de la mort de Saint-Patrick, qui devient la fête nationale irlandaise. on achève, 17e. Comment on dit printemps en italien, en espagnol et en portugais? C'est la même façon dans les trois langues. Est-ce que c'est primavera, primavera ou primavero?
Primavera?
Oui, okay. C'est la bonne réponse. Et en italien, en espagnol et en portugais, c'est primavera, le printemps.
Comme les pâtes primavera.
Eh oui, on aurait pu penser primavero.
Mais c'est ça.
OK, le printemps est la saison où le temps se radoucit. Bien évidemment, il est marqué par une alternance de journées ensoleillées et d'averses ayant lieu en mars, que l'on appelle les rincées, les giboulées ou les abattées. Les averses qui ont lieu pendant le mois de mars.
Je dirais les giboulées, probablement, c'est le seul que je connaisse. OK.
T'as bien fait d'y aller avec le nom qui te sonnait des cloches.
OK,
19e question. Qu'est-ce qui cherchent les amateurs de champignons au mois d'avril? Est-ce qu'on recherche les truffes, les girolles ou les morilles?
Les morilles.
Oui, et c'est délicieux des morilles. En as-tu déjà mangé des bonnes morilles fraîches?
J'ai jamais mangé de morilles, j'avoue. Là.
Ah, c'est tellement bon. Puis moi, j'étais chanceux. C'est une place à Nigadou où j'allais. Et le cuisinier français qui venait de la Savoie avait toujours des morilles fraîches dans son restaurant.
OK.
Puis j'ai passé plusieurs séjours à cet endroit. Puis il faisait des morilles avec de la fondue au fromage. C'était merveilleux. Très bon champignon. Et dernière question. Complétez le proverbe suivant. Février trop doux présage un printemps. Est-ce que c'est froid, humide ou chaud? Quand février trop doux présage un printemps.
Froid.
Eh oui, voilà, c'était la logique. Alors, combien de bonnes réponses sur 20?
J'ai fait 50%, j'ai fait 10 sur 20, fait que 50%.
Ce qui est vraiment pas si mal, parce que je t'ai mis des questions difficiles dans mon quiz de printemps.
Il y en a qui étaient tough, j'avoue. OK, fait que c'est ça, 2, 4, 6, 8, 10, 10. Fait que 50%, c'est pas la note de passage, mais j'ai fait avec ce que j'avais, parce que les questions...
Non, franchement, là, pour la difficulté du quiz d'aujourd'hui, c'est très bon, 50%, j'aurais même pas eu ça.
et ça clôt notre émission pour cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine avec non seulement un autre quiz, mais d'autres sujets également. J'espère que vous l'avez apprécié, cette émission-là. On se fixe un autre rendez-vous, Sébastien?
Bien sûr, toujours très agréable de te retrouver, Simon, et vous tous. Merci.